Vous écoutez bien Radio France Internationale, midi et demi en temps universel, il est 14h30 à Paris, c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Massra arrêté ce matin à N'Djamena. Le procureur évoque des appels à la haine que le président du parti Les Transformateurs aurait lancé. Le président déchu, Ali Bongo, sa femme Sylvia et son fils Noureddine ont quitté le Gabon. Ils sont arrivés cette nuit en Angola. Sylvia et Noureddine, emprisonnés depuis le coup d'État et inculpés de détournement de fonds publics, venaient d'être placés sous résidence surveillée. Ils n'en sont pas quittes avec la justice, affirme le procureur de Libreville qui parle d'une liberté provisoire dans l'attente de leur procès. Plus de trois semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington, un premier projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Un texte vient d'être transmis aux deux parties par les médiateurs américains. Et puis les sports du football et la mort d'un grand nom des Lions Indomptables. L'ancien capitaine camerounais Emmanuel Koundé a tiré sa révérence. Il avait 68 ans. Au Tchad, le président du parti des Transformateurs et ancien Premier ministre Succès Massra a été arrêté à l'aube à son domicile de N'Djamena. Il est détenu depuis à la coordination de la police judiciaire. Nadia Ben Mafoud, on vous retrouve en direct de N'Djamena où le procureur de la République a pris la parole ce matin. Il déclare que Succès Massra est poursuivi pour son implication dans des affrontements meurtriers survenus mercredi dans le sud du Tchad.
Oui, c'est bien le motif avancé par le procureur de la République, Oumar Mamat Kédéla, lors de son point presse. L'enquête se poursuit, mais selon le procureur, Succès Massra aurait, via ses réseaux sociaux, lancé des appels à la haine et à la violence. Le parquet affirme que ces messages auraient provoqué les violences survenues mercredi dans le village de Mandakao, dans le sud du pays. Une attaque meurtrière dont le bilan s'élève à 42 morts, principalement des femmes et des enfants. Et donc, c'est sur la base de ces éléments que le procureur dit avoir émis un mandat d'amener exécuté ce matin par la police judiciaire. Succès Massra est donc poursuivi pour incitation à la haine et à la révolte, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture.
Les Transformateurs, hein, eux aussi ont pris la parole pour réagir à l'arrestation de leur président. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition.
Oui, c'est bien ça. Les cadres du parti dénoncent une action brutale menée en dehors de toute procédure judiciaire connue, en violation des droits civiques et politiques garantis par la Constitution. Fin de citation. Ils rappellent également que leur parti s'est toujours inscrit dans une lutte pacifique. Et puis, il y a quelques minutes, une délégation des Transformateurs a rendu visite à Succès Massra, à la coordination de la police judiciaire de N'Djamena.
Merci Nadia Ben Mafoud. Parmi ceux qui ont vu Succès Massra, Djessada Ndolemba est l'un des vice-président des Transformateurs, François Mazet vient de le joindre.
Nous étions en effet partis accompagnés de nos avocats. Nous l'avons vu physiquement, il a le moral et il était bien surpris des chefs d'accusation contre lui. C'était les avocats qui lui ont apporté cette information à ma présence.
Lui, il n'avait aucune idée de pourquoi il avait été arrêté.
Il n'a aucune idée. C'était tout à l'heure qu'il a appris les raisons de son arrestation. Mais nous sommes évidemment bien surpris de ces chefs d'accusation puisque si vous vous rendez sur le site du président Massra, il a même rendu condoléances aux familles endeuillées. Donc, grande et notre surprise, tout ce que le président Massra a eu à dire se trouve sur sa page qui est publique, que tout le monde peut avoir accès. C'est une affaire qui est confiée à la justice. Nous laissons la justice et nos avocats faire leur travail.
Des propos recueillis par François Mazet, Djessada Ndolemba, vice-président du parti Les Transformateurs. L'ancien président gabonais Ali Bongo, son épouse Sylvia et son fils Noureddine sont arrivés cette nuit à Luanda en Angola. Arrêtés après le coup d'État, Sylvia et Noureddine avaient été emprisonnés à Libreville pour détournement. Leurs avocats avaient dénoncé à plusieurs reprises de mauvais traitements qu'ils auraient subis en détention. La semaine dernière, RFI avait révélé qu'ils avaient été remis en liberté provisoire. Eh bien, le procureur général, Eddy Minang, l'a confirmé ce matin, Yves-Laurent Goma.
Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin ont été libérés pour des raisons humanitaires, a déclaré le procureur général. Eddy Minang a précisé que les deux sont malades et que leur état de santé est devenu incompatible avec le milieu carcéral selon les conclusions de leur médecin traitant. Le procureur général a martelé que la liberté provisoire accordée à l'épouse et au fils de l'ancien président Ali Bongo n'interrompt nullement le cours normal de la procédure qui se poursuivra jusqu'à la tenue d'un procès équitable. Sylvia et son fils ont été arrêtés le soir du coup d'État du 30 août 2023. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre eux. Ils sont entre autres poursuivis pour détournement de biens publics, blanchiment des capitaux, faux et usage de faux, concussion, corruption active. Selon le procureur général, le juge d'instruction a clos son dossier depuis le 28 avril dernier. Il reste juste à fixer la date du procès. Ils seront jugés en leur présence ou absence puisqu'ils ont des avocats, a martelé le procureur général en marge de sa déclaration. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Plus de trois semaines après la signature d'une déclaration de principe à Washington, un premier projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda vient d'être transmis aux deux parties par les médiateurs américains. Le processus est encore fragile. Patient Ligodi, pourtant les États-Unis souhaitent encore donner un coup d'accélérateur.
À Kinshasa comme à Kigali, les autorités confirment avoir reçu une version consolidée du projet d'accord de paix. Ce document reprend les propositions que les deux pays avaient soumises au début du mois après la signature de la déclaration de principe sous l'égide des États-Unis. Mais à ce stade, rien n'est encore joué. Selon des sources proches du dossier, les négociations sont délicates, mais les Américains veulent aller vite. Pour donner une nouvelle impulsion, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État, a personnellement appelé les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour leur présenter les grandes lignes du texte. Des échanges qu'il qualifie de constructifs, même si il reconnaît que parvenir à un consensus sera difficile. Selon nos informations, Kinshasa et Kigali ont jusqu'à ce dimanche pour formuler leurs observations et proposer des amendements. Mais des sources dans les deux camps estiment que le délai pourrait être trop court au regard des sujets sensibles abordés, comme la coopération commerciale autour des minerais stratégiques ou encore des aspects sécuritaires. Parallèlement, un autre projet d'accord circule. Il aurait été proposé à Doha par les médiateurs qataris. Ce texte aurait été présenté aux émissaires du gouvernement congolais et aux représentants de la FCM23. Là encore, très peu d'éléments ont filtré pour l'instant sur les contenus du document.
Au Mali, les opposants décidés à ne pas se laisser faire après la décision de la junte militaire de dissoudre les partis. Le gouvernement assure qu'une nouvelle loi destinée à encadrer les formations politiques va être élaborée. Eux n'y croient pas. Pour les meneurs du mouvement pro-démocratie, les militaires veulent seulement se maintenir au pouvoir sans élection et sans que personne ne s'y oppose. David Bachet, même si leurs moyens d'action sont désormais limités, ils sont bien décidés à agir.
Plusieurs figures de la contestation annoncent des actions judiciaires à venir auprès de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et d'autres instances pour contester la dissolution des partis jugés inconstitutionnels. Mais la moindre réunion est passible de sanctions pour les partis, a fortiori ce type de démarche. Ces actions seront entreprises au nom de personnes qui en ont le droit, précise un ancien ministre. Une déclaration est en préparation, poursuit un autre, ajoutant que le format et la teneur sont encore en réflexion afin de rester dans la légalité. Si les militants pro-démocratiques ont toujours scrupuleusement joué cette carte, la dissolution des organisations politiques leur impose aujourd'hui une forme de clandestinité. Nous avons une réunion prochainement, mais je ne veux pas vous dire le jour exact, par mesure de sécurité, confie un opposant. Nous organisons la résistance de manière plus structurée, assure encore un ancien ministre très impliqué. Il ne s'agit pas seulement de la dissolution des partis, affirme cette source, c'est le rejet d'une dérive autoritaire. Certains opposants sont bien rodés, ils avaient déjà combattu la dictature du général Moussa Traoré et contribué à la victoire de la démocratie au Mali en 1991. Plusieurs interlocuteurs envisagent une mobilisation citoyenne et populaire, ce qui implique un risque important de répression.
Et on rappelle que trois figures de la contestation ont déjà été enlevées la semaine dernière par la sécurité d'État et sont toujours détenues en dehors de tout cadre judiciaire. Un autre militant a été agressé au couteau et des soutiens des militaires au pouvoir ont ouvertement appelé à la violence contre les partisans de la démocratie sans que la justice ne se saisisse de ces cas. Au Mali, toujours, une vingtaine de personnes arrêtées par l'armée ont été exécutées. Lundi, 27 hommes, des commerçants, avaient été interpellés lors d'une opération sur un marché à bétail à Diafarabé dans la région de Mopti, une zone fréquentée par les djihadistes du Jnim liés à Al-Qaïda. Leur famille, depuis, n'avait plus de nouvelles. Eh bien, hier soir, certains de leurs parents ont enfin été autorisés à se rendre sur le lieu où les interpellés avaient été conduits. Ils y ont découvert des scènes terribles, comme le raconte sous couvert d'anonymat ce témoin qu'a pu joindre la rédaction Mandingue de RFI.
Les militaires nous ont autorisés à aller à l'endroit où les prisonniers avaient été envoyés. Nous sommes allés voir leurs corps, ils ont été égorgés. Nous voulions prendre des images avec nos téléphones, mais cela nous a été refusé. Ils nous ont retiré le téléphone portable. Les personnes égorgées ont été jetées dans 3 fosses au même endroit. Les corps étaient décomposés et ont commencé à sentir l'odeur. Ça faisait 3 jours. Ils avaient été tués lundi, on les a vus hier soir. Nous avons prié sur les corps avant de les ensevelir avec du sable. Certains parmi nous commencent à quitter le village. Les militaires ont tué nos proches, alors que ce sont eux qui doivent nous protéger. Donc nous avons peur. On n'est en sécurité ni en brousse, ni dans le village. Nous sommes inquiets. Les autorités maliennes doivent agir avec discernement. Ceux qu'elles combattent tuent la population, mais l'armée aussi tue la population. Si la personne censée te protéger te tue, les gens iront chercher ailleurs la protection.
Ce matin, l'armée malienne affirme dans un communiqué qu'une enquête de gendarmerie a été ouverte sur ce qu'elle appelle des allégations de disparition de civils dont elle dénonce l'instrumentalisation à des fins subversives. Fin de citation. Il est midi 41 à Bamako.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, un rapport alarmant du réseau mondial contre les crises alimentaires. On découvrira Nina Torres, le 4e long métrage de l'ivoirienne Kadi Touré, qui raconte l'histoire d'une animatrice de télé vedette victime de violences conjugales. Et puis du football et la mort d'Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions Indomptables. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, le départ de l'armée française se poursuit au Sénégal. Hier, le quartier Contre-amiral Proté, une base logistique située sur le port de Dakar, a été restitué à l'État sénégalais. 2 autres sites situés dans la capitale ont déjà été restitués en mars dernier. Les 2 dernières emprises restantes de l'armée française de Dakar seront restituées d'ici à l'été 2025. Pour la 6e année consécutive, la faim s'est aggravée dans le monde, avec 295 millions de personnes en insécurité alimentaire dans plus de 50 pays. Selon le rapport du Réseau mondial contre les crises alimentaires publié ce matin, on a même atteint un niveau record de 2 millions de personnes frappées par la malnutrition sévère. Claire Fage, 2 pays africains, le Soudan et le Mali, figurent aux côtés de la Palestine et du Yémen parmi les 4 plus graves crises alimentaires.
Oui, le Soudan a atteint le niveau le plus grave, l'état de famine, en juillet dernier. Mais au Mali, la situation alimentaire au camp de déplacés de Gao a également été qualifiée d'extrêmement critique. Plus généralement, 60% des populations en insécurité alimentaire l'an dernier vivent sur le continent africain. Première cause, les conflits et les déplacements de population qu'ils engendrent. C'est le cas au Soudan, mais aussi en République démocratique du Congo. Les 2 pays comptent autant de personnes malnutries, près de 26 millions de personnes. À l'insécurité s'ajoutent les chocs économiques qui ont entraîné une inflation alimentaire comme au Nigeria et les désordres climatiques qui ont l'an dernier perturbé la production agricole dans la Corne de l'Afrique et en Afrique australe, Zambie ou Zimbabwe. La situation alimentaire risque de se dégrader encore plus en 2025, alerte le rapport, étant donné par exemple l'escalade qu'a connue le conflit en RDC en début d'année. Ce rapport est une nouvelle démonstration que nous n'allons pas dans la bonne direction, juge le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'autant que les crises prolongées sont maintenant aggravées par une autre, plus récente, la réduction catastrophique des financements d'urgence humanitaire pour répondre à ces crises.
Au cours de sa vie, une Ivoirienne sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles. Ce sont les estimations effarantes du Programme National de Lutte contre les Violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Pour briser le silence, l'actrice et productrice Kadi Touré utilise le cinéma comme arme de sensibilisation. Dans son 4e long métrage sorti au début du mois, Nina Torres, elle incarne une animatrice vedette à la vie en apparence parfaite, mais qu'une fois les projecteurs éteints, subit les coups et les humiliations d'un compagnon violent. Notre correspondant Abdoulaziz Diallo l'a vu pour nous.
Bonjour à tous et bienvenue dans Avec Nina.
Nina Torres est l'animatrice star d'une émission télé. Sourire radieux, conseil bienveillant, elle incarne le modèle de la femme accomplie. Mais tout cela n'est qu'une façade. Derrière les caméras, Nina vit l'enfer, victime de violences conjugales. Un rôle fort incarné par Kadi Touré elle-même.
Si au moins on parlait aux femmes, on leur disait « c'est pas grave si t'es pas mariée, si tu es victime de violences, tu peux partir, c'est pas grave ». Beaucoup de femmes peut-être allaient prendre conscience. Et c'est pour ça que j'ai fait en sorte que Nina soit une victime, elle aussi, de violences basées sur le genre.
Je m'appelle Nina Torres.
À travers ce long métrage, Kadi Touré appelle aussi à une remise en cause collective.
C'est un miroir tendu à la société pour qu'on puisse regarder, qu'on voit nos propres failles et qu'on soit dorénavant plus bienveillant avec les autres. Qu'on apporte plus d'amour parce que personne n'est parfait.
Le film suscite déjà de vives réactions. Pour certaines spectatrices comme Dame Amadou, il faut parler, sortir du silence.
Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales mais qui n'osent pas parler. C'est mieux d'en parler. De trouver quelqu'un à qui se confier, ou même d'en parler à la police pour être délivré.
Sorti en ce début mai dans les salles ivoiriennes et dans 14 pays francophones, Nina Torres résonne comme un cri du cœur, un appel à briser les chaînes de la violence à travers l'art. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Oui, une femme sur trois victimes de violences physiques ou sexuelles en Côte d'Ivoire. Le fléau peine à reculer malgré les campagnes de sensibilisation et des avancées juridiques. Sylvia Apata est la présidente de l'Organisation citoyenne pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes et des minorités.
Tout ce qui touche au ménage est vu comme privé. Donc c'est très difficilement que les femmes qui sont victimes dénoncent. Pour qu'elles puissent dénoncer, il faudrait vraiment une véritable campagne de sensibilisation nationale contre les violences conjugales, contre les violences faites aux femmes en général, pour susciter la prise de conscience des populations en général et des hommes surtout en particulier, parce que ce sont les hommes qui sont généralement les plus violents au niveau de l'arsenal juridique. Nous avons depuis 2021 la loi sur les mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Grâce à cette loi-là, aujourd'hui, la femme qui est violentée, elle a la possibilité de demander des mesures de protection. Donc, il faudrait une véritable vulgarisation de cette loi. Il faudrait aussi que même les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui sont chargés de mettre en œuvre la loi, puissent la connaître. Et il faudrait, pour en finir, qu'il y ait de plus en plus de centres d'hébergement. C'est vrai qu'on a déjà deux centres d'hébergement à Abidjan. Il faudrait que dans toutes les communes, il y ait au moins un centre d'hébergement pour que ces femmes-là puissent trouver réconfort quand le besoin se présente.
Des propos recueillis par Abdelaziz Diallo. Au Cameroun, le football est en deuil. Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions Indomptables, vainqueur des Cannes 84 et 88, est décédé ce matin. Il avait 68 ans. Emmanuel Koundé, milieu de terrain discret, mais indispensable, Joël Wadem.
Sélectionné 127 fois au sein des Lions Indomptables, Emmanuel Koundé faisait partie de la génération dorée de la décennie 80-90, dans laquelle se retrouvaient entre autres Roger Mila, Thomas Kono, Stéphane Tato ou François Oman Biyik. Avec cette sélection hors norme, il dispute 5 Coupes d'Afrique des Nations, dont 3 finales d'affilée. C'est lui qui marque face au Nigeria le seul but qui permet au Cameroun de remporter sa deuxième CAN en 1988 après celle de 1984. Ce spécialiste des coups de pied arrêtés a également participé à 2 Coupes du Monde. Celle de 1982 où le Cameroun sortit invaincu, mais surtout celle de 1990 au cours de laquelle les Lions Indomptables furent la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale. Face à l'Angleterre, il avait égalisé sur pénalty lors de cette rencontre certes perdue, mais restée mémorable. Koundé a commencé sa carrière au Canon de Yaoundé. Avec ce club, il remporte 3 championnats et une Coupe du Cameroun. Il dispute également la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1984. Après avoir écrit comme joueur l'une des plus belles pages du football camerounais, il devient entraîneur. Il remporte les Coupes du Gabon de 1999 et 2003 avec US Bitam. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Il est 13h49 à Yaoundé. Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 16 mai.
Des discussions entre la Russie et l'Ukraine, les premières depuis 3 ans, même si elles se déroulent sans les présidents de ces deux pays et sans Donald Trump. Les positions restent totalement opposées pour l'instant. Moscou demande à Kiev d'abandonner les territoires conquis par la Russie avant un cessez-le-feu. Et l'Ukraine exige toujours un arrêt immédiat des combats. Pas vraiment de perspective donc. Mais le chancelier allemand salue un signal tout petit mais positif. Autre discussion entre l'Iran et plusieurs pays européens sur le programme nucléaire de Téhéran. Les États-Unis ne sont pas représentés, mais leur secrétaire d'État a parlé tout à l'heure avec des représentants des pays européens concernés, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. J-2 avant la présidentielle en Roumanie, les deux candidats pour le second tour sont au coude à coude dans les sondages, mais le populiste d'extrême droite, Jorge Simion, se dit certain d'être le prochain président. Il s'exprime de France, dernière étape d'une tournée européenne pour s'adresser à la diaspora roumaine qu'il avait largement placée en tête au premier tour. On votera aussi en Pologne dimanche, premier tour cette fois de la présidentielle, et on apprend qu'une attaque informatique cible le parti au pouvoir. Plusieurs de ses sites internet sont hors de service ce vendredi. Voilà pour l'essentiel. Et tout de suite, l'invité d'Afrique Midi.
Le président du Ghana, John Mahama Dramani, a fait sensation cette semaine en lançant cette supplique aux accents trumpistes que les investisseurs viennent forer du pétrole dans son pays comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pourquoi une telle frénésie? Pourquoi une telle impatience? Benjamin Auger, chercheur associé au programme Afrique et au programme Énergie-Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Benjamin Auger, bonjour.
Bonjour.
À l'Africa CEO Forum d'Abidjan cette semaine, le président ghanéen, John Mahama, a fait sensation quand il a appelé les investisseurs à venir pomper un maximum de pétrole chez lui, comme s'il n'y avait pas de lendemain, a-t-il précisé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est très classique de tous les dirigeants de pays producteurs. L'objectif est de produire le plus vite possible. Et John Mahama, qui vient d'arriver au pouvoir, a besoin de revenus significatifs. Et donc, c'est assez classique que dans le sillage de l'arrivée de Trump au pouvoir, qui justement va faire son possible pour augmenter encore la production pétrolière de son pays, eh bien, à l'image de Trump, il essaie de suivre ses traces. Et donc, l'objectif, c'est de produire jusqu'à la dernière goutte, tant qu'il y a une rentabilité par rapport à leur gisement. C'est d'essayer de faire en sorte que des investisseurs viennent pour trouver de nouveaux gisements pour que la production puisse à nouveau remonter. Et c'est vrai qu'il a compris que l'enveloppe globale pour les hydrocarbures a tendance à diminuer et que donc les investisseurs sont de plus en plus difficiles à convaincre d'investir dans leur pays, notamment dans des pays compliqués. Et donc, il est nécessaire de tout faire pour faire en sorte que ces investisseurs viennent, en l'occurrence, au Ghana.
Oui, parce qu'il y a pas mal de banques européennes et américaines qui sont sous pression de leurs opinions publiques et qui n'osent plus investir dans le pétrole et le gaz, c'est ça ?
Exactement, ouais. Tout gros investissement, on peut parler aussi notamment de l'investissement au Mozambique sur Mozambique LNG avec Total, est très très compliqué parce que vous avez plusieurs pays qui sont impliqués et les ONG environnementales tendent en Occident à faire beaucoup beaucoup de pression pour que leurs banques n'investissent pas dans ces projets-là et donc ça devient de plus en plus compliqué avec une enveloppe globale pour le pétrole et le gaz qui diminue et avec un nombre d'acteurs qui se dirige de moins en moins sur les hydrocarbures qui n'a plus vraiment la cote.
Alors le Ghana n'est pas le seul pays africain à nourrir de grandes ambitions gazières et pétrolières. Il y a son voisin ivoirien, il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie. Est-ce que ces grands projets d'hydrocarbures sont compatibles avec la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables ?
C'est une discussion très complexe parce qu'à partir du moment où vous faites des découvertes pétrolières et gazières, l'objectif c'est de les mettre en production. Il n'y a aucun pays au monde qui a réussi à faire en sorte que des projets avec des découvertes et avec des financements ne se développent pas dans les hydrocarbures. L'Équateur a essayé de faire ça, c'est-à-dire en disant Chevron a fait des découvertes, on ne les développe pas si les organisations internationales nous donnent l'équivalent en revenus. Et finalement, évidemment, Chevron a développé puisque personne n'a proposé de solution. Donc tous les pays que vous avez cités, leur objectif c'est de produire au maximum du pétrole et du gaz et les barils qui ont été découverts ne vont pas être transformés en énergie électrique parce que l'énergie électrique va venir des renouvelables. Donc les énergies renouvelables, ça va permettre justement de l'énergie pour ces pays-là. Donc, plus vous faites de l'énergie renouvelable dans ces pays-là, plus vous avez une capacité d'exportation des hydrocarbures. C'est tout à fait la stratégie des gros pays producteurs, notamment dans le Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui construisent d'énormes fermes solaires, justement pour leur électricité propre, pour pouvoir continuer à exporter le plus grand nombre de barils de pétrole.
Alors, au cours de son intervention à l'Africa CEO Forum d'Abidjan, le président ghanéen a fait cet aveu. J'ai honte de dire que seulement 2,7% de l'énergie que consomme le Ghana provient des énergies renouvelables, notamment du solaire. Est-ce que l'énergie verte, ce n'est pas encore un gadget ?
En fait, c'est des énergies qui sont pas continues, donc c'est difficile de le stocker. Et les hydrocarbures permettent justement d'avoir une énergie continue, plutôt bon marché, et donc on va plutôt à la facilité. Donc c'est en grande partie pour ça que il y a encore une très grande majorité des centrales en Afrique qui sont au pétrole, au gaz et évidemment encore pire, au charbon, qui est encore plus rentable. Donc c'est une question de rentabilité, de facilité d'investissement et aussi du fait que vous avez de l'énergie en continu, contrairement à l'énergie renouvelable.
Et du coup, est-ce que beaucoup de dirigeants africains et européens ne se disent pas à voix basse que le gaz, le pétrole, voire le charbon, comme vous dites, ont encore de beaux jours devant eux ?
Oui, en fait, clairement, les hydrocarbures ont encore plusieurs décennies de production, ça c'est absolument évident. Et donc, on va avoir certainement une production qui va commencer à décroître dans les années 2030-2035, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va arrêter de consommer du pétrole et du gaz. En tout cas, pour le pétrole, il risque d'avoir une courbe descendante dans les années 2030, et pour le gaz, ça risque d'être encore plus tard. Donc, on est vraiment sur une industrie dont la fin est difficile à prévoir, mais clairement, facilement encore trois décennies devant nous de production.
Benjamin Auger, merci.
Benjamin Auger au micro de Christophe Boisbouvier. Entretien retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet grand invité Afrique. Et on part à présent à Garoua, la grande ville du nord du Cameroun, où des entrepreneurs se sont lancés dans la foulée de la politique d'import-substitution initiée par les autorités. Il s'agit en fait de produire localement plutôt que d'importer. C'est le cas de Madame Kaltoumi dans sa petite coopérative où l'on fabrique du yaourt. À Garoua, le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Charlotte Cossé.
Moi, c'est Madame Kaltoumi, épouse Boubakari, transformatrice du lait. On est ici dans la salle de production. Là, on est en train de fabriquer le yaourt.
À la manœuvre, Raphaël, Charlotte sur la tête et gants en latex aux mains, il remue le lait dans un bac en plastique.
Je suis en train de transformer le lait en yaourt. Pendant 4 temps, on est en train de mettre les laits seulement dans les bouteilles, on charge comme ça.
À l'initiative de cette coopérative, Madame Kaltoumi, une trentenaire d'origine Peul.
C'est déjà notre culture de le lait. Déjà à l'âge petit, je connais quand même déjà comment faire de façon familiale. Donc je me suis dit pourquoi alors ne pas faire peut-être une business qui peut nous rapporter. C'est comme ça que ça a commencé.
Elle débute chez elle, produit à petite échelle, puis s'associe avec d'autres femmes en groupe d'initiative commune, le GIC.
Après quelques années, on s'est constitué un GIC.
Parce que ça marchait bien ?
Effectivement, oui, parce que ça marche bien, puisque à chaque fois, on ne fait qu'augmenter. On a passé à hausser de 100 francs. Après, c'est dans des bouteilles comme ça qu'on fait. On livre partout dans le Garoua et jusqu'à Maroua.
Et de sens de l'entrepreneuriat, elle n'en manque pas.
Je me suis formée sur net, sur la fabrication du yaourt. Et après, il y a des formations que l'État a fait, que j'ai participé avec d'autres projets et programmes. En tout cas, j'ai fait beaucoup de formations sur la transformation, sur l'entrepreneuriat. Donc à chaque fois, il y a un programme qui veut faire la formation et je participe.
Très vite, la demande la dépasse. Dans le cadre de la stratégie de développement du secteur rural du Cameroun, un programme soutenu par ACEFA de l'Agence française de développement, la productrice reçoit une aide financière de 6 millions de francs CFA, ce qui lui permet d'investir dans des frigos et d'avoir des locaux dédiés à la production. La façade du petit bâtiment affiche fièrement Beauté Kossam, le bienfait du lait. Aujourd'hui, sa petite équipe de 10 personnes produit 500 litres de yaourt par jour qui sont livrés dans les restaurants, les supermarchés ou des petites boutiques. Elle pense déjà à l'étape suivante, investir dans des machines.
On est en train de penser à trouver certaines machines qui peuvent faciliter et qui va nous permettre d'augmenter la quantité. Puisqu'il y a quand même la demande, puisqu'actuellement, avec le 500 litres, on n'arrive pas à satisfaire le marché. Puisque dès qu'on produit, ça finit, ça ne reste pas.
Un développement qui ne va cependant pas de soi. Malgré des démarches auprès de plusieurs organismes de prêt, la petite coopérative ne parvient pas pour l'instant à obtenir les financements nécessaires. Charlotte Cossé, de retour de Garoua, RFI.
Et c'est à Garoua que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Courreau, Karine Franck, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Dans deux minutes, un tout petit peu moins maintenant, selon votre zone d'écoute, le rendez-vous d'Haïti des Amériques ou bien une demi-heure d'information en full day ou en portugais. À tout de suite.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Cette semaine, nous visitons le jardin potager du Centre Cœur Yakar à Dilor, au Sénégal. Un lieu de formation agroécologique pour les jeunes de la région. Le centre essaie de fonctionner sur la transformation et la vente de sa production, mais cela reste insuffisant.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI. l'épopée des musiques noires.
Le roi du blues, B.B. King, nous a quittés il y a 10 ans. Si on connaît bien son épopée racontée par les historiens et spécialistes, ce récit épique élude parfois la personnalité intime de cet homme de cœur. À Indianola, cette petite ville du Mississippi, où il a grandi et où il repose désormais, un musée a été élevé à sa gloire pour saluer sa mémoire. Retour sur les terres d'une icône disparue dans l'épopée des musiques noires avec Joe Farmer, samedi à 13h30 TU.
RFI.
Salam alaikum, c'est Anas, Arthur et Didier de Zare Électrique.
On vous donne rendez-vous le 17 mai au Kilowatt à Vitry-sur-Seine, près de Paris.
Pour fêter la sortie de Koyo, notre nouvel album avec le soutien de la Mastrock, Jarring Effect et RFI Talent.
Ça commence à 19h.
En compte sur vous.
Plus d'infos sur kilowatt.fr.